éphémère, 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue. Eh ben, que dire qu'aujourd'hui nous sommes le samedi 7 mai 2005. Comme tous les samedis, nous ouvrons avec les magazines, suppléments week-end, BD, télévision et musique sur le net cette semaine. Puis le cahier du sport à partir de 15h du mix avec Yaka Roulé, c'est du reggae. 17h, Vie d'ordure, ça c'est du punk back to 77. 18h30, Clark Nova de la pop communiste pour les ouvriers back plus 5. 20h, Last Hetero Experience. 21h30, Liquid Sky. Et on termine avec de la jungle avec à 23h, Breakbeat Experience. Voilà. J'ai pas été un peu trop rapide, non? Bon, d'accord, ok. Ben voilà, comme d'habitude, hein. Éphémère, 89.1.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Et c'est supplément week-end avec Xavier cette semaine sans Thomas malheureusement puisqu'il est en week-end prolongé. Du sport devra arriver en cours d'émission et nous accueillons en invité DJ Tampopo qui parlera de son label Sweet Smelling Surfaces. Et aussi ben, de la nuit des musées, ça on y viendra, ce sera juste après ce premier morceau de son label. Thin God, Disco Mess. Et mea culpa maxima, c'est de Snydes. J'ai commencé par une grosse gaffe. Tant Popo, si tu peux ranger ce hachoir à viande, s'il te plaît. Effectivement, tu n'es pas DJ.
Je sais pas.
Non, s'il te plaît. Non, effectivement, bon, il n'est pas DJ. Par contre, c'est vrai que l'on se connaît bien. Donc ça, je tiens à le signaler d'entrée dès le début. Puisque c'est un des nombreux individus qui font en sorte que l'art bouge à Toulouse et surtout ben, qui est aussi l'auteur de Radio Éphémère, puisque tu as fait partie de Radio Éphémère à une époque.
Oui, début des années 80. Ouais.
Voilà, hein, donc ouais. Voilà, hein, les petits jeunes là actuellement, attention, prenez-en de la graine, c'est un vrai de vrai. Un de ceux qui ont pu s'en sortir de la vague punk, puisqu'il a monté un label de musique électronique qui s'appelle Sweet Smelling Surfaces. Je sais pas si mon accent est bon.
Si, si, c'est parfait.
C'est à peu près ça. Bon, d'accord.
Ouais. Bon, pour les intimes, on dit SSS aussi.
Voilà. Donc, avec son visage à la Koé et son physique de sumo, et ben, le nom de son site.
Je suis pas prêt de le ranger, là.
Le nom de son site, c'est sumodehouse.com. Dessus, on retrouve donc les sorties du label SSS. On va en parler en cours d'émission de ce qu'est ce label. Je t'ai invité parce que tout simplement, la semaine prochaine, samedi prochain, tu fais un concert aux abattoirs, là on va y venir, c'est pour donc la première nuit des musées, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est la première opération du ministère de la Culture français qui va ouvrir les musées une partie de la nuit, enfin en tout cas jusqu'à minuit, une heure, un grand maximum je pense, dans la France entière.
Donc voilà, donc on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Alors pourquoi inviter un label musical ? C'est pas uniquement pour pallier à l'absence de Thomas et qu'il me fallait une contrepartie. Non, loin de là. C'est que hier, j'ai voulu acheter des disques et là, ça ne l'a pas fait. Je me suis même plutôt énervé. Camarade auditeur, on vous ment, on vous spolie. Je suis un fan des Chemical Brothers. Je me suis précipité sur le dernier album, Push the Button, pour l'acheter. Parce que voilà, le single, il tue, voilà. Or, dessus, il y a le trop discret logo Copy Control. Ça signifie une chose très simple, c'est qu'il est illisible chez moi. Quand j'ai vu le sceau de l'infamie sur l'album tant convoité, j'ai carrément jeté le faux CD plutôt que le remettre civilement dans le bac. Que Chemical Brothers, dont j'ai acheté tous les albums et une bonne partie des singles, m'insulte d'une manière aussi barbare, ça me l'a mis mal. Alors, ce que j'ai absolument pas accepté, c'est quand le vendeur m'a dit que j'avais qu'à avoir un vrai lecteur CD. Moi, y en avoir 4, petit con. Moi, y en avoir une console de jeu, un PC sous Linux, un Mac système classique et un vieux lecteur de salon. Et mes CD, je les ris pour les écouter dans mon baladeur, dans un format dont je contrôle la qualité de restitution. Alors, le dernier CD protégé que j'ai acheté, eh ben, il est collé sur ma table basse et sert de sous-boc. Ça va faire mal aux copains qui ont enregistré la musique qu'il y a dessus, mais je pense qu'ils comprennent parfaitement la démarche. Surtout que l'album en question reçu à la radio n'était pas protégé parce que cette limitation, eh ben, elle bloque les appareils. Et qui dit les radios ne peuvent pas lire, dit, eh ben, l'album qui ne passe pas à l'antenne. Alors quand je vois ces pubs télécharger la musique légalement en la payant, ben j'ai fait un bond. Je vous rappelle les règles du jeu. Quoi qu'en dise Major, vous avez le droit total de copier et de ripper vos CD pour un usage personnel, c'est inaliénable. Tout procédé anti-copie contrefait le principe même du CD audio, et donc vous avez 30% de chances de ne pouvoir lire la galette achetée à cause de la protection à la con. Les protections anti-copie ne sont installées ni sur les promos envoyés aux radios, ni sur les CD vendus aux USA. Pour mettre de la musique dans un baladeur, vous n'êtes absolument pas tenu de la réacheter. Le fait de payer des droits musicaux sur n'importe quel support vierge, de la disquette, hein, une disquette 1 méga 4, on y met vachement beaucoup de morceaux dessus, à la cassette vidéo 8, vas-y que tu mets la musique dessus, tu vois, est un porte-à-faux juridique sur l'interdiction de copie qui nous est imposée par les boîtes, en contrefait finalement de l'autorisation de la copie personnelle. Tous les artistes ne sont pas d'accord sur les protections ni sur la politique répressive actuelle des majors. Toute la musique n'est pas éditée par les grosses maisons d'édition. Et la musique, finalement, c'est comme un livre. Si on n'a plus le droit de la lire n'importe où, elle ne libère plus l'esprit. C'est juste les grosses boîtes qui ne supportent pas d'autres moyens de distribution que celles qu'elles ont instituées depuis maintenant un siècle. On peut télécharger légalement, gratuitement. Je parle pas de peer-to-peer, je parle de net label. Au dernier recensement, ils sont plusieurs centaines à proposer de charger gratuitement leur musique. Comme ça, sans payer. Voilà, tu passes, tu cliques, tu récupères sur ton disque et t'écoutes, et voilà. Il y a des jeunes qui débutent, d'autres qui ne rentrent pas dans le domaine commercial, et ceux dégoûtés par leur mère du genre, par leur major, qui ont récupéré toute leur bande, et on propose gratuitement leur musique, comme ça, sur leur site, comme le saxo Steve Coleman, qui est quand même plutôt connu, m-bass.org. Bref, vous risquez de trouver votre bonheur et surtout de découvrir autre chose que l'on ne trouve pas en général dans les maisons de disques. Donc, ben, forcément, quelque part, là, vous risquez de trouver de bonnes choses. Et ça tombe bien puisque Tom Popo, donc, qui est invité à ce supplément week-end, a créé un label Sweet Smelling Surfaces. Alors, avant de parler de ce label, mon cher ami Tom Popo, quelle a été ta carrière dans le domaine musical ou artistique ?
Ben, un petit peu comme tous les protagonistes de la scène électronique, j'ai commencé en chambre, en empilant quelques vieux synthés, un vieil Atari pourri qui démarrait sur disquette, mais qui marchait quand même très bien. Et puis voilà, quoi, je me suis mis un petit peu à la production avec Pertes et Fracas au début, évidemment, parce que c'est quand même une drôle d'aventure.
C'est-à-dire que tu t'es en auto-édition ?
Non, pas du tout. Disons que j'ai commencé à produire à la maison pour voir ce que je pouvais en faire, ce que ça pouvait donner. Et en fait, au bout d'à peu près 2-3 ans d'expérimentation, j'avais quelques morceaux qui étaient prêts, parce que c'est quand même un sacré boulot. Et je les ai passés à David Carreta, qui à l'époque venait de signer sur Gigolo, qui démarrait donc. Et qui a fait passer ma démo à DJL et qui...
Le boss de Gigolo, voilà.
Voilà, la superstar de l'électro.
Électro-allemande.
Voilà. Et donc, bah, DJL m'a contacté peu de temps après pour me demander de lui envoyer la suite parce qu'il est intéressé pour sortir un single. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, quoi.
Comme ça, et puis finalement, donc, tu as été édité dans un label. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ?
Ben, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu le début des emmerdes, parce que signer sur un label, c'est quand même assez génial, mais en même temps, moi je suis à Toulouse, le label était à l'époque à Munich, puisque maintenant il a déplacé ses locaux à Berlin, évidemment.
On est à quelle époque ? Début années 90 ?
Non, c'est plutôt la fin des années 90.
Mais bon, il y a déjà le net.
Ouais, le net y est, mais pas pour tout le monde,
pas des débits suffisants.
Oui, non, c'est ça. Enfin, je veux dire, il était hors de question de penser, de même avoir l'idée de faire transiter de la musique sur le net au début du net. Quoi. On s'en servait vraiment pour aller surfer sur trois sites pourris, s'échanger quelques emails, et puis voilà. Quoi. Et puis, bon, les labels n'avaient pas du tout pressenti, comme personne d'ailleurs, l'échange de musique sur le réseau. Quoi. Donc, non, là, il n'était pas question même d'avoir un site dédié à un label, enfin, c'était quand même très très timide. Donc là non, c'est sorti vinyle et puis voilà quoi. De toute façon, c'est quand même l'outil majeur des DJ et qui le reste malgré la technologie, les softs comme Final Scratch et des trucs comme ça, les DJ aiment bien le vinyle aussi quoi.
La matière plutôt que juste le son.
Ouais, la matière, le toucher.
Il y a l'objet en lui-même.
Ouais, il y a l'objet, il y a le toucher, il y a quand même le son aussi, quoi, qui est
cracolant.
Voilà, ouais, mais bon, qui est quand même bien, quoi. Très chaleureux et très sympa. Et puis bon, un single, c'est quand même assez joli, quoi.
Là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne remplace pas actuellement la distribution MP3. On va y venir par la suite. Gigolo Records. Comme la plupart des labels indépendants, eux sont pris vraiment de plein fouet les problèmes actuels de la musique sur le net, puisqu'ils ont mis la clé sous la porte.
Non, Gigolo a pas mis la clé sous la porte. Hein. Au contraire, c'est un label qui se porte plutôt bien, qui signe encore beaucoup d'artistes. Bon, alors moi, je suis plus trop l'affaire Gigolo parce que je suis parti un peu du label. Parce que le label est devenu gros et n'a pas réellement su gérer ses artistes.
Donc, c'est-à-dire que tu t'estimes que tu n'avais pas la même représentativité, qu'on n'avait plus la même écoute.
Non, c'est pas. Enfin, disons que non, mais il faut pas cracher dans la soupe non plus. Gigolo, c'est un label qui était formidable, qui continue à l'être parce qu'il continue quand même à nous sortir des trucs imparables. Mais c'est un label qui est devenu très gros selon la volonté de DJL, hein, qui a quand même explosé grâce à ça. Après, bon, c'est tous ces petits labels, ils ont des problèmes de personnel, il faut faire tourner du stagiaire, donc la plupart des tâches administratives sont reléguées à des stagiaires qui font plus ou moins bien leur boulot, et c'est un peu usant parce que, bon, on n'a jamais le même interlocuteur quand on envoie un email ou quand on téléphone. Donc c'est un petit
Ah bon, moi je croyais que c'était juste en fait les radios et les télés qui avaient que des stagiaires au bout du téléphone, en fait c'est général.
Ah non, mais de toute façon le stagiaire c'est l'ouvrier de base maintenant quoi, c'est un ouvrier qui coûte zéro.
C'est pas lui qui fait la musique malheureusement.
Non, c'est pas lui qui fait la musique, mais c'est lui qui met les disques dans les pochettes pour les envoyer au DJ, c'est lui qui répond au téléphone, aux emails, bon voilà, alors il y a des mecs qui font bien leur boulot, il y en a d'autres qui le font moins bien, mais bon ça à la limite c'est un autre problème quoi. Non, Gigolo est devenu un très gros label, plutôt intéressant. Moi, ça m'intéresse moyennement son histoire parce qu'il a quand même viré beaucoup sur le revival années 80 qui est pas vraiment ma tasse de thé. Et puis bon, maintenant, il commence à signer du rock et là, c'est carrément plus ma tasse de thé du tout, quoi. Donc non, ils sont vraiment passés dans une autre sphère. Ils sont distribués par Universal maintenant et tout ça, donc bon, c'est pas très très intéressant artistiquement, quoi.
Et donc finalement, tu en es venu à monter ton propre net label.
Ouais, alors
c'est venu comment cette idée-là?
C'est venu un peu naturellement parce que moi j'animais un site qui s'appelle Sumo Day House qui essayait de faire transiter des informations du monde de la musique électronique sous la forme d'un netzine. Mais bon, c'était quand même un boulot assez colossal parce qu'on se rend assez vite compte que seul c'est une tâche qui est absolument impossible à gérer. Et puis parallèlement, je continuais à faire mes propres productions aussi. Et puis pendant à peu près 6 mois, on n'entendait plus parler que du marasme de l'industrie du disque. C'était la catastrophe. Les artistes allaient devenir tous des clochards. Enfin bon, c'était un peu panique à bord.
Ouais.
Et en fait, j'ai arrêté la partie éditoriale de Sumo Day House pour me lancer dans l'affaire du net label. Alors en fait, ça tombait bien, j'ai rencontré un jeune type qui était programmeur informaticien à cette époque-là, passionné de musique, un DJ qui commençait à poser quelques disques sur ses platines pour s'amuser, passionné aussi de musique. Et on a dit, on a un petit réseau de contacts, on connaît quelques artistes, et puis des artistes, il y en a plein maintenant, parce que, bon, je veux dire, il suffit une poignée de dollars ou d'euros pour commencer à produire en chambre. Donc on s'est dit, pourquoi pas, tout le monde fait la gueule, tout le monde se plaint, tous les artistes se voient retourner, dans le meilleur des cas, leurs démos, voire n'ont pas du tout de feedback des labels qu'ils ont contactés. Donc on s'est dit, il y a quand même des tas de mecs qui font des choses super bien, et puis le net... Malgré tout, c'était un support assez formidable pour...
Ça coûte rien.
Ça coûte rien
et ça coûte rien en fait de lancer des morceaux dont on n'est pas sûr de la retomber.
Ouais, ça coûte rien parce que c'est vrai qu'on n'est pas... Nous, on court pas après l'audience sur SSS, même si c'est quand même important. Enfin, je veux dire, quand on voit les stats et qu'on a des bonnes retombées, c'est plutôt sympa, quoi. mais non, c'est plutôt pour l'amour de l'art qu'on a fait ça. Enfin, je veux dire, ça nous rapporte 0 franc, ça nous bouffe beaucoup d'énergie... Mais non, c'est vraiment pour le fun, quoi. Et puis bon, c'est vrai que moi j'ai toujours été assez attiré par la communication avec des tas de types à l'autre bout du monde et très rapidement en fait c'est arrivé. Enfin, je veux dire, là on a déjà écouté Teen God, c'est un DJ.
Alors oui, présente donc le morceau avec lequel on a commencé Teen God.
Teen God, en fait, c'est un type qui m'a contacté, qui est à Sao Paulo, qui est DJ en club, DJ en radio, qui fait la production aussi, et qui en fait m'a fait écouter son premier morceau, c'était Disco Mess, là, donc le morceau qui vient de passer, et qui est en fait une reprise déguisée d'un morceau, enfin un remix déguisé d'un morceau de Divo, quoi.
On l'a reconnu dans le sample, mais
voilà, qu'il a fait écouter mec de Divo, qui lui ont dit non, pas question de sortir ce truc.
D'accord.
Et nous, comme on a une plateforme qui est gratuite, qui a une structure quasiment fantomatique, puisque bon, on existe sur le web, mais on n'existe pas ailleurs, on se dit, de toute façon, on prend aucun risque à distribuer un remix gratuitement sur le web. Et puis le remix était plutôt sympa, donc voilà.
Ce qu'on appelle un bootleg, comme il en existe plein.
Voilà, comme il en existe
des milliers. On trouve un peu au hasard. Voilà.
Donc il y a des mecs qui font des thunes avec, nous, on n'en fait pas, mais n'empêche que la musique circule et c'est plutôt bien, quoi.
C'est ça qui me surprend un peu, c'est distribuer gratuitement de la musique, c'est parce que la gloire nourrit-elle mieux que les invendus?
Bonne question. Je sais pas trop. Non, disons que ça permet à des tas de mecs qui n'arrivent pas à signer de se faire connaître, d'avoir leurs morceaux qui tournent, qui sont chroniqués plus ou moins bien dans des magazines en ligne, même des magazines papier, parce que je sais qu'en Allemagne notamment, il y a eu quelques articles sur SSS et quelques autres net labels, quoi. Donc non, on court pas vraiment après la gloire, quoi. Mais bon, c'est vraiment l'idée, c'est de faire de faire circuler de la musique qu'on n'a pas forcément l'occasion de trouver, d'ailleurs qu'on n'a jamais l'occasion de trouver dans les bacs, il faut être clair, quoi. Alors parce que les labels sont frileux, c'est vrai que ça coûte cher de sortir des disques, il y a des risques quand même assez majeurs de se planter sur une production, quoi. Et l'économie des petits labels indépendants est quand même assez fragile, quoi. Donc oui, c'est vrai que les mecs ont du mal un petit peu à signer à tour de bras comme ça se faisait peut-être au début des années 90.
Quoi. Donc c'est plutôt facile finalement de trouver des gens qui spontanément sont prêts à offrir leur musique et à être symboliquement édité par un label.
Ouais,
au lieu d'être
ouais.
sur un site web, qu'il soit sur un label, c'est-à-dire un site web collectif.
Oui, c'est ça. Enfin, l'idée, c'est vrai que l'idée du réseau et du collectif, moi, c'est une idée à laquelle je tiens quand même assez. Et non, mais c'est vrai que les mecs arrivent tout naturellement. Parce que nous, bon, nous, on a fait quand même un petit effort au niveau visuel, promotionnel et tout ça. On a une bonne mailing list, des types qui nous soutiennent. Et donc, oui, bah, je pense que naturellement, les types, au lieu de se créer un site web personnel et mettre trois morceaux dessus, bah, ils préfèrent peut-être confier ça à des netlabels qui ont déjà bâti un petit réseau de diffusion.
Ouais. C'est, en plus, c'est vrai que point de vue réseau de diffusion, il y a des reprises sur un site qui est peu connu du net, et malheureusement, c'est archive.org qui relève l'historique,
ouais.
l'historique du web. Et ils ont une page qui est spécifique au net label.
Ouais.
Alors, il n'y a pas toutes les sorties de tous les labels, mais justement, c'est un répertoire de liens absolument superbe.
Oui, c'est colossal.
Avec des forums de discussion, donc c'est pas mal. Moi, il y a une chose qui me surprend, c'est pourquoi Tampopo lui-même n'a pas de sortie dans Sweets, mais dans le label SSS.
Ben on me le demande beaucoup, mais de toute façon il y en aura, mais pas sous ce nom-là, en tout cas.
Ah, va falloir chercher alors.
Voilà, oh, mais ce sera assez facile. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de finaliser mes productions pour ce support-là. J'ai quelques titres que j'aimerais bien finaliser, qui sont vraiment réservés à SSS. Parallèlement à ça, moi j'ai signé sur Trapèze Limited, qui est un label de Cologne. Hein, donc mes morceaux vont en priorité dans les mains de Riley, qui est le label manager de Trapèze. Mais non, ça ne saurait tarder. Quoi. En fait, j'ai 3-4 titres qui sont prêts, mais qui seront un son un peu différent. Tempopo sera plus du down tempo ou du hip hop expérimental ou ce genre de choses. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Et puis bon. À part, oui, vas-y.
Oui, excuse-moi, mais c'est-à-dire qu'on a une liste d'attente qui est assez colossale maintenant sur SSS. On a 25 sorties, on en a déjà à peu près 40 qui sont déjà prêtes. Donc voilà, moi je préfère laisser la priorité à des artistes nouveaux.
À tes coups de cœur personnels, collectif plutôt qu'à toi.
Ouais.
C'est bien, ça suit. Ouais. Enfin, c'est dommage qu'on voit que ta gueule au départ sur le site, mais bon, je déconne là. Moi, il y a une chose qui me surprend, c'est comment on peut encore avoir une logique de single et d'album hein, dans des sorties sur le net en MP3. Parce que
c'est-à-dire, je comprends pas trop ta question là.
Tu as une logique de sortie qui est de regrouper par single ou par album,
ouais.
Comme la plupart des labels. Mais est-ce que cette logique existe encore quand on est dans le domaine du tout virtuel, du MP3, où on peut piocher un morceau à gauche, à droite, faire une compile?
Ouais. Alors là, justement, c'est une réflexion sur laquelle on s'est un peu penché ces derniers temps. C'est qu'en regardant les statistiques, parce que bon, disons que le...
Oui, c'est vrai que tu as un système de compteur. Hein, j'ai vu.
Voilà. Alors auquel tous les artistes qui sont édités ont accès. Mais ce qui se passe en fait, c'est que je me suis rendu compte du fait qu'on ne classe, qu'on n'a pas créé de catégorisation très précise pour la musique dans SSS, parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire une case électroclash, une case techno, une case ambiante ou expérimentale, parce que je trouve ça nul. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui arrivent sur SSS prennent généralement le premier voire le deuxième morceau de chaque release. Et basta. Et
ça reste dans le principe en fait du single ou de l'album, c'est toujours
ouais,
le premier qui tape.
Bah, c'est-à-dire que les mecs ils savent pas trop ce qu'ils vont découvrir, donc ils prennent un morceau, si c'est pas leur style, et ben bon voilà, ils zappent et ils passent à côté. C'est un peu con parce que des fois le quatrième morceau est à mon avis meilleur que le premier, mais bon ça généralement c'est les artistes qui décident de l'ordre d'apparition des morceaux. C'est pour ça que dans les releases suivantes qui arriveront, je pense, vers l'automne, on va essayer de se consacrer simplement à des deux titres. Parce qu'en fait, il y a quand même un gros gâchis, c'est que les mecs laissent sur le quai de la gare des tas de morceaux qui sont vachement intéressants. Et puis voilà, ils s'y intéressent pas, donc à la limite, on fera 3 singles au lieu d'un album, et puis voilà quoi.
Oui, c'est vrai que moi, je peux en témoigner parce que pour graver sur CD tous les morceaux qu'on entend en fond sonore, il m'a fallu du temps avant de tout découvrir.
Mais ouais, forcément.
Parce que quand même, il y a 40 singles, ça fait pas mal de sorties. Est-ce qu'il y a des affinités avec d'autres net labels ou des radios online?
Ouais, on est en train de développer un partenariat avec un... Alors, c'est pas un net label, c'est un regroupement de labels qui vendent de la musique en ligne qui s'appelle Street Forward, qui est à Vienne, en Autriche, qui nous propose une exposition supplémentaire pour SSS via leur site web, quoi. Ensuite, récemment, j'ai eu un contact avec un Allemand qui a monté un net label il y a quelques mois, qui a dans l'idée de monter une super plateforme sur le web de net labels qui sont tous, qui ont tous plus ou moins des affinités, en tout cas artistiques, quoi. Donc oui, ça se développe, oui, tranquillement. Ouais.
On va passer à un autre artiste de ton net label. Il s'agit donc, excusez-moi, de My Robot Friend Swallow. Alors, d'où vient My Robot Friend?
Alors, My Robot Friend, c'est un type qui s'appelle Howard, qui est un type assez formidable qui vit à New York, que j'ai connu sur le web. En fait, ça a été un des premiers artistes qui, dans cette sphère-là, proposait déjà des morceaux en MP3 sur son site, qui ensuite a été signé par Decathlon à Munich, qui est le label de Zombie Nation. Et c'est un type qui fait des choses tout à fait formidables, qui est très farfelu sur scène, qui a un costume avec avec des feux d'artifice qui s'allument partout, un chapeau avec des milliards de diodes qui clignotent, et qui fait une espèce de pop électronique assez assez ravageuse, quoi. Et c'est vraiment très très intéressant.
Donc on écoute Swallow.
It must be touched, and the more it's touched, the more it's damaged.
Must be touched, and the more it's touched, the more it's damaged. Midi 30 sur Radio FML, la poubelle des radios, midi 31 même, c'est supplément week-end, et je nique la pub pour une fois, j'ai zappé la post-pub, je suis désolé. Bah non, c'est voulu, et puis voilà, il y aura une post-pub un peu plus loin, enfin un coup de gueule vis-à-vis d'une soirée qui est organisée par des copains du samedi, mais ça on en reparlera tout à l'heure. On va finir l'interview donc avec Tampopo de Sweet Smelling Surfaces. Donc, on a parlé d'une soirée aux abattoirs qui a lieu samedi prochain dans le cadre donc de la première nuit des musées. Alors ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à toi ?
C'est moi qui ai fait appel à eux en fait quoi.
Et là ils se sont dit ah c'est trop con, ouais viens y jouer gratos.
Non, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un ami plasticien qui s'appelle David Brunner à Toulouse qui avait eu dans l'idée l'année dernière d'organiser une soirée Tampopo avec un artiste qui fait de l'animation flash qui s'appelle Motomichi Nakamura, qui est un japonais qui vient à New York avec qui je travaille régulièrement. Il avait eu l'idée de faire une expo à la Inc. Et malheureusement, la Inc. donc a explosé.
La papisse, et voilà.
Voilà. Et en fait, il avait toujours ce projet en tête. Il a dit, c'est quand même un peu con, on n'arrive pas à le faire, ce truc. Et moi, je lui ai dit, en même temps, il y a l'auditorium des abattoirs qui ne sert quasiment à rien. Enfin, en tout cas, il y a quand même très très peu de manifestations qui s'y passent. Et je lui ai dit, il y a quand même un espace sympa, il y a un écran, il y a une belle salle et tout ça. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Alors en fait, on a été voir la direction des abattoirs.
Au flanc.
Voilà, et qui nous a dit, ben, pourquoi ne pas profiter de la nuit des musées, puisque le musée sera ouvert jusqu'à 1h. Il y aura quand même du monde, parce que les gens, quand ils voient la lumière allumée, généralement, ils sont attirés comme les mouches. Et il y aura du people, donc il a dit ben profitez de cette soirée là et puis sans même, il nous a dit oui sans même savoir ce qu'on allait faire quoi, en fait sans même connaître Tampopo ni la musique que je fais, mais bon le type est très confiant et puis tant mieux, enfin je trouve ça plutôt sympa quoi.
Joueur de punk rock à cassage de chaises, vous pouvez aller voir aux abattoirs, vous avez toutes les chances d'avoir une bonne salle de concert.
Oui c'est ça, voilà, il suffit de voir la bonne personne au bon moment et puis ça, il y a des chances que ça marche quoi.
Bon d'accord.
Alors nous on a dit oui parce que c'est vrai que généralement dans Popo quand on fait des concerts on est deux sur scène, moi je m'occupe de la musique et j'ai un VJ qui travaille avec moi donc qui projette de l'image en temps réel et bon je trouve ça rentre très bien dans le cadre du musée des abattoirs hein. C'est quand même un lieu qui pour les musiques électroniques commence à se placer puisque c'est eux qui accueillent le festival des siestes électroniques, donc pourquoi pas, et puis voilà ça s'est fait tout naturellement et on était assez étonnés quand même hein, mais bon voilà.
D'accord, donc rendez-vous à partir de 22h, c'est ça ?
Ouais, 21h, 21h30, David Brunner va faire un petit truc, une petite installation avant, et puis nous on devrait enchaîner sur le concert vers 10h du soir.
Voilà, c'est samedi de la semaine prochaine, normalement ouais. Le temps là, est en train de se découvrir, donc je pense qu'on pourra se faire un petit pique-nique dans le jardin à côté.
Oui, voilà.
On va pas
oui.
S'éclater quoi, oui. Les amis, c'est donc le bon plan, samedi prochain, Tampopo Sweet Smelling Surfaces. On va parler de tout à fait autre chose puisque c'est moi qui vais commencer avec les sorties bande dessinée avec, ma foi, une horreur. Il n'y a pas d'autre terme. Ah, avec ce machin là, absolument moche. Vicente, les aventures au quotidien de Roberto et Pamela. Amour, tortilla et écran plat.
Pepita, il y a marqué.
Pepita. Oh merde. Bon, d'accord, ok. Où en fait c'est l'histoire d'un infographiste PAO qui est donc avec son copain Léon qui décide de faire switcher sa femme du PC au Mac. Ils ont besoin d'un ordinateur à la maison, ils veulent se connecter à Internet et en fait toute l'histoire c'est Roberto arrivera-t-il à faire passer Pepita au Macintosh alors que ça coûte deux fois plus cher qu'un PC normal et que donc adieu les vacances au soleil dans les Antilles. Là, tout est la question. Après, comment dire ? J'ai préféré parler de ce bouquin en l'absence de Thomas, qui est un appeliste convaincu, histoire de dire que ce bouquin n'est absolument pas convaincant. Graphiquement, il est pas génial. Et point de vue scénario, les gags tombent littéralement à plat. Alors, je prends le risque de me mettre à dos les sectes des adorateurs de la pomme. Mais Tiger ou pas, cette BD, bah moi j'ai pas aimé, et c'est pas ça qui me fera switcher, je resterai sur mon OS au pingouin favori, point barre. Mais bon, on peut très bien acheter un Mac pour faire tourner Linux dessus, hein. Ça c'est pas ça le problème. Non, c'est que cette BD n'est absolument pas convaincante. On se demande comment Albin Michel a pu publier un bouquin pareil alors qu'ils ont une excellente production à côté. Et puis surtout, pour un infographiste, sortir des bouquins aussi moches, Ça
c'est moche. Hein.
Tous les ouvriers de la PAO ne sont pas des bons dessinateurs. Et là, malheureusement, c'est vraiment le bon exemple. Chris Lamke sort le cinquième tome de Alvin Norge. Qui s'appelle Quantum. Alors ça, Chris Lamke, c'est un dessinateur qui a 50 ans, qui a continuellement su se renouveler dans la bande dessinée, et là il le prouve. C'est dans la collection Troisième Vague du Lombard, qui est une collection qui est dédiée plutôt à la bande dessinée adulte, avec des bons polars, et bien amené, et ben là il l'a bien foutu. C'est vrai que jusqu'à une dizaine d'années, il était assez porté sur l'écologie et la SF plutôt spatiale, c'est-à-dire on est loin de l'art science, mais plutôt limite de la fantasy. Il a fait d'ailleurs une très très belle série pour Tintin dans les années 80, une série qui s'appelait Quasar. Moi, j'en ai des souvenirs émus de cette BD, qui était très bien foutue. Mais dans son dernier album, et ben là, on revient dans cette série Alvin Norge, on revient vraiment dans une art science avec un polar très très bien posé. Alvin Norge, c'est un hacker repenti dans les années 2010-2020, devenu graphiste 3D de jeu. Oui, c'est pas pour rien que je parle du net. Malheureusement, il est un peu mal vu depuis qu'une de ses créations assez sexy, Kimberly, a pris vie et s'est muée en virus informatique aux limites de cracher toute l'économie mondiale. C'était dans le premier tome, et depuis, il est poursuivi par la Skumoon. Faut dire qu'on se meurt, on se suicide autour de lui, sa copine est rentrée dans le FBI, il veut plus la voir parce qu'il est soupçonné de meurtre, etc. Bref, la dernière couve qui lui est arrivée, c'est qu'il est l'héritier désigné d'un gigantesque empire informatique monté par un illuminé qui, le lendemain de sa mort, apparaît en hologramme pour virer tous ses hauts cadres en disant « C'est Alvin Norge ». Ouais, le petit connard là qui a failli foutre le monde par terre, qui va reprendre ma boîte d'informatique qui fournit 15% des ordinateurs haut de gamme. Scepticisme général et surtout mafia sur le dos. Et ben évidemment, il faut essayer de sortir de New York pour aller dans le Qatar alors que l'on est sur les têtes d'affiche du FBI, bref, plutôt malvenu, et surtout parce qu'on a embarqué une Biélorusse qui s'appelle Olga, un peu malgré lui, et surtout un gros problème de vision, de plus en plus brouillé par des pixels, et un molmol, un personnage d'une BD des années 80, c'est une série qui s'appelait Quasar. Je vous laisse deviner pourquoi. En tout cas, Alvin Norge, c'est un excellent polar qui est un peu limite cyberpunk, mais pas complètement. En tout cas, c'est de l'art science qui est très bien foutu, que moi j'aime bien, qui a un dessin réaliste qui est très agréable à regarder, et surtout une série d'action qui est vraiment très prenante et qui a quand même un humour assez particulier, mais qui est très agréable à lire. Alvin Norge, donc le cinquième tome s'appelle Quantum. C'est dans la collection Troisième Vague chez le Lombard, et donc c'est Chris Lamke qui le dessine, que l'on a déjà interviewé deux fois sur Radio FMR, et qui est loin d'être désagréable. On va terminer avec, attention, les gros yeux de du sport. Ah, ouais, prends-la, t'attends que ça. Je peux pas l'attendre. Le Punisher, la fin. Scénario de Garth Ennis et dessin de Richard Corben. C'est dans la collection Marvel Graphics Novel de Panini Comics. Et on va commencer par un pitch plutôt simple, puisque en fait le Punisher se retrouve en prison après 30 années à résoudre le crime à sa manière, c'est-à-dire par une justice expéditive, dans un cachot au fin fond d'une prison de haute sécurité, parce que la première chose qu'il a faite en arrivant en Zanzon, c'était de buter tous ceux qui lui plaisaient pas. Ah bah oui, tu m'étonnes, avec un régiment de violeurs, tueurs d'enfants, psychopathe en tout genre, lui, la première chose qu'il a fait, allez, je te zigouille ça. Donc on a dû le foutre dans un cachot à part, et c'est justement ça qui va le sauver, son délire de justice expéditive qui l'a amené au cachot, tout simplement, puisqu'après l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, le Pakistan et la Corée du Nord, l'Amérique de George W. Bush a voulu s'attaquer à un autre état terroriste, la Chine. Pas de bol, les deux puissances ont réglé ça à coups de missiles nucléaires. Bon, à partir de là, gros spoiler ! N'écoute pas pendant une minute pour vous dire un peu la fin. C'est que ça me fait mal de savoir que l'avant-dernier être humain qui se fait tuer par le Punisher, mais bon, comme d'hab, Garth Ennis déborde bourrinement d'une joie de vivre parfaitement optimiste, et Richard Corben met plein de couleurs chaleureuses, jaune, vert, rouge, c'est parfaitement riant. Garth Ennis est l'auteur de The Preacher, Witchblade, Godos, donc hein, du comics en général, qui n'est absolument pas bourrin, pas du tout. Et Richard Corben, bah, c'est le dessinateur de Vic Blue, de la saga d'Oden. Enfin, à mon avis, du sport là, il aurait beaucoup plus de choses à dire.
Oui, mais ça remonte à tellement loin, mon gars.
Ouais, il a même fait un Superman en pixel. C'était la première bande dessinée qu'un espèce de fou a voulu essayer de faire quoi, en infographie. Ça avait été une catastrophe à l'époque. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est riant de couleurs, je dirais. Les nuages jaunes irradiés par radioactivité, ça.
Ouais, 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 bon, ben, il faut dire qu'à l'époque, il avait quand même un dessin qui tranchait par rapport aux autres, vu que bon, ben, c'était le dessin sans ligne, hein, c'est-à-dire uniquement une espèce de changement
courbe,
de teinte, de courbe, d'aplat, comme ça, vraiment très, très genre dessin l'aérographe. Enfin, bon,
et surtout des couleurs très pastelles, très fluo, notamment dans Den, alors que pourtant, c'est une histoire très noire.
Ouais, c'est pour ça, déjà, le retrouver dans Punisher, bon, c'est assez étonnant, hein, mais enfin, c'est vrai que...
Ah pourquoi ? Bah franchement, ça le fait super bien.
Ça le fait super bien.
Tu es sûr que tu veux pas me l'emprunter là ? Je te le voyais le garder sauvagement.
Bon, bah, okay, d'accord.
Je te rendrai les DVD la semaine prochaine. voilà, c'était un peu expédié pour la bande dessinée. On va écouter un dernier morceau. Et là, je vais Tampopo va vous dire après qui c'est. Voilà. Zou. Non, je me suis trompé. Non,
oui,
c'était
oui.
Le précédent. Voilà, c'est celui-là normalement. Queen Size Bed de Queen of Japan, c'est de qui? Queen of Japan, c'est japonais, non?
Non, pas du tout. Queen of Japan, c'est un groupe de, à l'origine de Munich.
Ouais.
Qui est formé par une chanteuse qui s'appelle Miss Le Bomb et deux types qui travaillent en studio avec elle. Et alors, ça fait partie des morceaux qui sont absolument insortables dans le circuit commercial.
Pardon?
Parce que en fait
c'est tout à fait dans la vague rétro électro informatique années 80.
Oui, mais alors justement c'est en fait les trois morceaux qui nous ont passés pour SSS étaient sortis sur un 10 inch en Allemagne.
Ouais.
Et ils ont dû être retirés parce que il y avait un clearage de samples tellement colossal à effectuer. qu'en fait et ben voilà, les morceaux ont été sortis du circuit commercial et nous on les a récupérés parce que bon évidemment comme c'est gratuit, on s'en fout, on peut tout passer quoi. Et puis voilà, donc c'était trois morceaux de Miss Le Bomb qu'on peut retrouver à télécharger intégralement sur le net label.
Bah voilà, donc voilà. Sur sumodehouse.com et vous cliquez sur Sweet Smelling Surfaces et après bah, vous essayez de trouver Queen of Japan dans le lot d'artistes. 12h46 sur la poubelle des radios, supplément au week-end, et on va passer à du sport.
Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.
Du sport, je t'ai retrouvé le générique de Dragnet en VO.
Bah oui, mais je l'avais déjà passé, je te signale. Quand même.
Oh là, va falloir que je cherche dans mes archives. Ok.
Ce magnifique générique dont justement t'as les premières notes qui avaient été interprétées l'idée avait été soufflée au compositeur par un certain Miklos Rosa. Et les gens qui connaissent la musique un peu apprécieront, c'est un mec qui a fait des musiques de films dans les années 50-60, grand compositeur de musique de films. Dans les années 40, 50 et 60, on n'est pas là pour parler de Dragnet. Pas de Dragnet, je suis désolé. Pas de Dragnet, non. Et très peu de nouvelles séries quand même, hein. C'est un peu la dèche, alors on va se consoler avec le tout venant, ce qu'il y a, ce qui passe et qui est pas dégueulasse quand même, hein. Déjà, il y a une sortie, ça c'est bon, de l'inédit quand même, mais c'est la deuxième saison. On a vu la première saison sur Canal Jimmy et c'était vraiment un régal pour ceux qui ont apprécié ce genre de série, parce que faut dire que c'est quand même un petit peu assez inclassable déjà, mais en plus c'est une série qui met pas très bien à l'aise non plus, de par les sujets abordés, de par le thème de l'histoire, de par le thème des histoires, hein, parce qu'il y a plusieurs histoires qui se déroulent en même temps. Il s'agit de la série Carnival, j'en ai déjà amplement parlé lors de la sortie de la première saison, hein, c'est-à-dire sur Jimmy. Et là ça y est, hop, la deuxième saison déboule avec toujours Nick Stahl dans le rôle principal, hein, de Ben. Nick Stahl qu'on voit d'ailleurs qui fait un petit rôle dans Sin City là, parce que je voyais tous vous jeter sur la pochette du dernier Mad Movie, c'est Sin City, hein, qui sort la semaine prochaine.
Et
Nick Stahl joue un petit rôle également dans Sin City. Il y a Clancy Brown qu'on ne présente plus, hein, alors le pasteur Justin qui est encore présent dans la saison 2. Michael G. Anderson, le nain, là, le fameux nain que vous voyez également dans la série Twin Peaks, vers la fin de la série Twin Peaks. Il est là également présent dans cette seconde saison. Et Patrick Beauchaud, je l'ai pas retrouvé. Alors je sais pas s'ils l'ont pas cramé, s'ils l'ont pas dégommé. Il me semble qu'il s'est pris il s'est pris des pains dans la gueule et tout. Il s'est fait sauvagement attaqué par plusieurs nanas, ça c'est clair. Mais enfin bon, je croyais qu'il en avait réchappé quand même. Je l'ai pas retrouvé pour l'instant. À vérifier donc, à partir de demain soir. Et ce sera comme ça tous les dimanches, hein. C'est diffusé quand même à un horaire un petit peu, on va dire, entre les deux, 21h30. Pourquoi pas en prime time, parce que bon, vu le sujet et vu les scènes, pareil qu'il y a encore plus d'action dans la deuxième saison que dans la première. Alors de la première, c'est pas tellement la question de l'action, c'est plutôt les ambiances qui sont des fois un petit peu lourdes, un peu pesantes, un petit peu zarbes, disons-le carrément. Mais dans la deuxième, il paraît qu'il y a un petit peu plus d'action. Alors quand ça déménage, faut dire que c'est vrai que c'est du rated -10, -12 sans problème, et ça se comprend, hein. C'est normal, c'est pas trop fait pour les enfants, pour les petits-enfants, c'est tout à fait normal, hein. Donc Carnival à partir de demain soir 21h30, et c'est juste après le dernier épisode de Boomtown, c'est demain soir sur Canal Jimmy à 20h45. C'est le dernier, hein, c'est le sixième de la saison 2. Et après, les exécutifs de la chaîne, ils ont dit ouais, c'est de la merde, ça marche pas, vous faites pas assez, vous emmenez pas assez de pognon de pub, hop, vous dégagez. Et c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis.
Hein. J'ai juste une chose à te dire, c'est la sortie la semaine prochaine dans la collection Librio chez J'ai lu de série télé de Martin Winkler.
Martin Winkler, dossier
de presse, hop.
Qui sort pratiquement en même temps que son autre bouquin, qui est un bouquin un petit peu plus fouillé, on va dire, qu'il y a un bouquin qui est un petit peu plus pour les aficionados du genre, qu'est la série télé qui s'appelle Les Miroirs Perdus. Hein, les deux sortent pratiquement en même temps.
C'est une réédition, d'accord, parce que Les Miroirs Perdus, il l'avait déjà fait, je crois.
Non, c'est le troisième de sa série, justement, consacrée aux séries télé. L'autre s'appelait, je me rappelle pas comment, la semaine dernière c'est pareil, hein, je me rappelais pas non plus. C'est bien que tu me le signales, parce que j'oublie à chaque fois de parler de celui-là. Je parle de l'autre, moi, et pas de celui-là. Les deux sont sortis en même temps.
Ouais, collection Librio, c'est à 2€, donc ça vous fait un petit peu de contre-culture télévisuelle américaine pour peu de frais.
Non, mais c'est le genre de truc qui est bien, parce que ça permet de repérer un petit peu, d'avoir des renseignements assez exacts, le nom des acteurs. C'est souvent, on regarde un truc, on se dit, merde, mais je connais cette tronche, j'ai déjà vu, quoi. Mais où est-ce que vous l'avez vu? Bah, c'est l'occasion des fois de le découvrir hein, comme ça dans ce genre de bouquin. Donc Boomtown, demain c'est le dernier. Hein. Et puis là c'est vraiment dommage. Là vraiment je dis ils ont merdé comme des cons, mais ça c'est les ricains. C'est normal. Par contre ce soir on a quand même droit au coup du pic à glace. On est content. On l'avait déjà vu. Hein. C'est pas un épisode inédit de New York Section Criminelle. C'est un épisode de la saison 2, hein, c'est un flic qu'on retrouve tué avec un pic à glace, alors qu'il enquêtait sur des médecins un petit peu véreux. Et il s'avère que les médecins étaient vraiment véreux, quoi.
Vous verrez, c'est pas opéré mal. Au pic à glace, quelle bande de truands.
Ça c'est le retour du pic à glace. Ça c'est dans New York Section Criminelle ce soir. C'est le deuxième épisode, c'est-à-dire celui qui vient après le premier. Ah ouais, logique. À 23h20, le premier épisode qui lui est complètement inédit. Hein, donc une militante athée qui est enlevée puis tuée. Et puis retrouver, et puis là, Sherlock Holmes alias Vincent D'Onofrio arrive, et puis il trouve qui c'est, bien sûr, comme d'habitude. C'est normal, c'est le meilleur. Aidé en cela par Catherine Herbe, qu'on a vu également dans une autre série, dans la série Oz, où elle jouait le rôle de Shirley Ballinger, la nana qui a tué ses gamins et qui se fait faire engrosser juste avant son exécution à mort, qui est la femme d'ailleurs de Terry Kinney, qui joue également dans la série le rôle de Mac Malus, c'est-à-dire celui qui est en dessous du patron de la prison. Ça c'est le premier épisode, donc c'est ce soir à 23h20, donc New York Section Criminelle. Et voilà, et c'est tout pour les séries hein, de toute façon. Par contre, du côté du documentaire, il y a des trucs pas mal. Alors là, c'est pour casser un petit peu les cinémas, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça, hein, c'est ça la concurrence. C'est l'excellent documentaire qui, je crois, passe encore en salle en ce moment à Toulouse, The Weather Underground, qui raconte l'histoire des Weathermen, qui était un groupe de révolutionnaires qui avait décidé d'importer la guerre. Ils étaient contre la guerre au Vietnam dans les années 60. Mmh. Et ils ont décidé, eux, d'attaquer l'ennemi sur son territoire, à savoir aux États-Unis. C'est-à-dire ils ont commencé à essayer de fabriquer des bombes pour essayer de faire péter des trucs et tout. En fait, ça s'est achevé assez lamentablement parce que ils se sont fait péter la gueule avec une bombe et tout. Ça a un petit peu cassé le moral des gens. Mais c'est quand même assez intéressant à regarder. Hein. C'est un documentaire qui fait 1h35 et je crois qu'il est également diffusé en salle. Là, vous pourrez le voir sur Planète demain à 0h10 et mercredi prochain à 0h55 également. Et comme tu connais ma passion pour ce sujet, je te propose un documentaire lundi prochain à 20h45. En plus, c'est du prime time, mon gars. Entre la vie et la morgue, 0h55, sur l'Institut médico-légal de Richmond aux États-Unis.
Je comprends pas que tu aimes pas des séries comme CSI, mais d'un autre côté, t'adores les cadavres.
C'est tout à fait passionnant. C'est tout à fait passionnant. dans un registre qui t'intéressera vachement plus, je pense, c'est mercredi prochain sur TPS Home Cinéma. C'est après le film Spider-Man de Sam Raimi. Eh bien, un documentaire qui, tu vas me dire, merde, j'ai pas de TPS, j'ai les boules, qui s'appelle Comic Book Confidential.
Oh non !
Qui est un portrait de 22 auteurs de BD américains. Je suis désolé, c'est mercredi prochain.
Et je crois qu'il a été passé en salle lors du festival d'Angoulême, donc je crois que je l'ai vu.
Improbable. Ouais. Ok, c'est 22h50.
Je crois qu'il a eu une exploitation cinématographique qui me semble assez confidentielle dans le circuit RSC.
Ah, mais c'est un format bâtard, hein. C'est un format genre 55 minutes.
Hein. Ouais, donc, c'est pas impossible.
C'est pas tellement passable, enfin bon, pas top quoi, tu vois. Ensuite, après les documentaires, le Clint de la semaine. Hein, le Clint de la semaine, là c'est du grand cru quand même, hein. C'est l'inspecteur Harry tout simplement.
Je vais finir par en faire un jingle.
Lundi prochain sur 13ème rue à 20h50, c'est l'inspecteur Harry de 71 de Don Siegel avec le Scorpio, le mec qui se fait, à un moment il se fait casser la tête à fond les manettes, il dit viens donne-moi encore, il se fait exprès casser la tête et tout pour aller porter plainte après, c'est vraiment génial, c'est le meilleur hein, de toute façon, des Dirty Harry c'est le meilleur, il n'y a pas de problème. Et il y a deux Carpenters la semaine prochaine, tu es content j'espère, le Carpenter de la semaine c'est les Carpenters de la semaine avec les aventures de l'homme invisible qui lui est un Carpenter qui est pas souvent passé.
Je crois qu'il a été limite de le renier, je crois, il avait été assez déçu.
Ouais, mais enfin c'est quand même assez regardable, c'est sur 13ème rue également la semaine prochaine, mais j'ai pas repéré, c'est à 20h50 également, je crois que c'est mercredi prochain, c'est avec Chevy Chase, Daryl Lana, Sam Neill et Michael McKean. Michael McKean, c'est le mec qui fait des seconds rôles justement, ou à sa tronche, je dis putain, mec, j'ai déjà vu quelque part celui-là. Alors déjà, il joue le rôle du patron de Brian Benben dans la série Dream On. Le mec qui se tape toutes les nanas, qui est jamais là, qui est tyrannique et tout. Et puis bon, c'est normal, c'est parce que c'est lui qui a le pognon. En plus, il joue le rôle d'un patron australien qui va faire chier les mecs aux États-Unis, tu vois. Comme quoi, c'est un petit peu tourné. Et c'est également
c'est Robert Murdoch.
Et Michael Mackin, c'est également le rôle principal dans Spinal Tap, cet excellent film, ce film génial de l'aventure. Les aventures d'un groupe de rock'n'roll.
Moi, j'aimerais bien que mes vues maîtres aillent jusqu'à 11, mais c'est le compresseur derrière qui dit non.
Voilà, c'est ça. Et donc ça passe sur Teva, les aventures de l'homme invisible. Ouais, Teva jeudi prochain 20h50. Et il y a un que j'aime beaucoup de Carpenter, que j'ai déjà vu plein de fois, mais chaque fois j'aime bien revoir. C'est Invasion Los Angeles, qui date de 88 avec Roddy Piper et Keith David.
Comment mettre au rôle principal un catcheur uniquement pour une scène de combat qui dure 5 minutes
10 minutes. Attends, oh là là, quand même. Et là, justement, on va parler catch après.
À chaque fois, on prépare le pot de popcorn, on l'ouvre uniquement pour cette scène-là. Vas-y. Après, il y a partout, faut passer l'aspirateur.
C'est sur Action, mardi prochain à 20h40. Et moi, j'aime bien ce film parce que il m'aide à me souvenir de Keith David ou de David Keith et le blanc et le noir. Parce que là-dedans, là, dans Invasion Los Angeles, c'est Keith David, c'est le black. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez que David Keith, c'est le blanc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, des petits repères. Mnémotechnique tout simple. Il y a également, je vous avais parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours du spécial Mad Movie, spécial ciné italien qui est sorti dans les hors séries.
Traiter de macho à l'antenne.
Le numéro 5. C'est pas fini mon gars. C'est pas fini mon gars. Avec un petit spécial ciné rital. Qu'est-ce qu'on peut voir encore du cinéma rital italien, à la télé, un petit peu. Déjà demain soir, un film magnifique d'Antonio Margheriti qui s'appelle La Vierge de Nuremberg, un film de 63 avec l'excellente Rosanna Podesta et avec la présence de l'incontournable Christopher Lee. C'est sur Cinéfix demain à 21h. Si tu veux te le mater avant, je te le file.
Merci.
Je te la prête.
Ouais, voilà. Plutôt. Oui.
C'est pas mal, c'est regardable. La Vierge de Nuremberg, c'est un supplice qui est connu quand même pour ceux qui ont pratiqué un petit peu l'art médiéval. C'est genre un sarcophage avec les pointes à l'intérieur. Vous mettez le corps et tout, vous refermez. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. C'est ça, une Vierge de Nuremberg. Mais ça a vraiment existé en plus. C'est vraiment un supplice qui a vraiment existé.
On dit que le record, je crois que c'est 12 jours avant de mourir, c'est un banquier danois, il me semble, qui le tient.
Je reviendrai.
Il avait pas de bol.
Je reviendrai avec le livre adéquat la semaine prochaine. Alors, de dimanche à mercredi, pas grand-chose. Sinon, mercredi, un magnifique documentaire sur France 3 à 20h50 concernant la Toscane secrète. C'est encore de l'Italie, mon gars. Jeudi, on reste un petit peu plus sérieux avec Destination Planète Hydra sur TPS Cine Extrême à 21h05 de 66 de près de Pietro Franceschi avec Leonora Ruffo, dont je t'ai montré la photo la semaine dernière, et Kirk Morris qui était l'un des spéciaux de ceux qui jouaient massiste toute la série, des costauds. Et tout ça. Et le pitch de Destination Planète Hydra est le suivant. Dans la campagne romaine, des traces de radioactivité alertent un géologue qui découvre des extraterrestres plutôt sensibles au charme terrestre.
Ça va être grandiose.
Ça jette quand même. Et ça termine vendredi prochain sur CNFX avec Touareg, le guerrier du désert de 83. Alors, tourné par Enzo Castellari, qui lui est rital, et il en a tourné une plâtrasse, un wagon de films, que ce soit du western, de tous les styles. Et par contre, là, il s'agit d'une coproduction hispano-italo-israélienne, avec quand même, NCIS, Marc Harmon dans le rôle titre, mon gars.
Pour une fois que c'est ni les Français, ni les Allemands dans la coprod, c'est les Israéliens, d'accord.
C'est sur Cinéfix vendredi prochain à 21h. Et je termine par le téléfilm de la semaine quand même, que celui-là, il a un pitch qui tue de l'enfer. Après le crash d'une navette spatiale dans la zone 51, les spationautes ont été mordus par une araignée dont le génome a été modifié avec de l'ADN extraterrestre. Ça s'appelle Spiders de Gary Jones. Ça date de l'an 2000 avec Lana Parrilla, qu'on a jamais, je me rappelle pas la série dans laquelle j'ai vu, tu vois, c'est pour ça que le genre de bouquin là, c'est vachement bien. Olivier McCready, Josh Green et Nick Swartz, c'est Spiders, jeudi prochain sur M6 à 23h15.
Bon, d'accord, bah pour une fois en plus, on a fini à l'heure. largement. Donc du sport, ben le temps que tu me rejoignes de l'autre côté, puisque toi aussi tu as des invités cette semaine.
Et j'avais promis de passer ce DVD à
Thomas.
À Thomas.
Alors, quand je le verrai. Tolente, el brazo tonto de la ley.
Si.
Thomas, quand tu l'écouteras lundi l'émission préenregistrée sur le site de Radio FMR www.radio-fmr.net, t'oublieras pas de me le demander, je l'aurai dans mon sac. Voilà. C'était Supplément Week-end avec comme invité Tampopo qui est venu pour parler de The Sweet Smelling Surfaces. On le retrouve la semaine prochaine à partir de 21h au Musée des Abattoirs en concert. Et sachez que pratiquement tous les fonds sonores que vous avez entendus, sauf celui-là, hop, que je mets en générique, étaient extraits donc du label en question. Donc vous pouvez les récupérer gratuitement. Allez-y, vous embêtez pas. Du sport, tu me rejoins peut-être, hein. Pendant ce temps, moi, je fais l'agenda mercredi 11 à 20h au VKS, au Vogue System. Anexia propose Best of Festival 2. Un événement où on présentera les nouveaux festivals en question organisés par Anexia avec une projection d'une sélection vidéo intitulée Tracer le territoire, suivi ensuite de Soleil Vert, la présentation donc d'une installation multimédia de Laetitia de la Fontaine et Grégory Niel. C'est jusqu'au samedi 28 mai, donc au VKS. Megabass présente Weapon Art Remix, et ce soir encore une émission siglée Radio FMR avec DJ Red Eye pour la Drum and Bass, DJ Dre Daily Shows pour New Breaks, DJ Jude pour de la Raga Jungle et Bunny Dread pour New Woods, Boogles, Soka et UK. Ouais, et allez-y dans les étiquettes les gars, hein, c'est à peine chiant à lire. C'est ce soir à partir de 22h jusqu'à l'aube, prix 6 euros, excusez-moi, sur la péniche Toulouse, c'est 6 boulevards de Genève, sur le boulevard latéral de la Garonne. À mon avis, si c'est dans une péniche, c'est que c'est pas très grand, on va se tasser ce soir. Et je tiens à râler auprès de mes collègues qui font émission tout à l'heure à partir de 18h30, il s'agit de Clark Nova pour leur soirée Bocheland Uber Alles avec Patrick Topalov en couverture pour son superbe single « Tous les Allemands sont musiciens ». Ma foi, Patrick Topalov qui fait le con avec un uniforme de Waffen-SS, je veux bien, mais la veille du 8 mai, c'est-à-dire les 60 ans de la reddition de l'Allemagne nazie, quand même, on pouvait trouver mieux, surtout qu'on est en pleine polémique sur la constitution, soi-disant la constitution, puisqu'il s'agit pas d'une constitution, voilà, c'est un peu technique, mais bon, une grande soirée de recyclage idéologique et auditif. C'est jeudi 12 au Fantomas, sans alcool, la fête est plus molle. Voilà, vous écoutez Supplément Week-end, pour une fois, on termine beaucoup plus tôt. J'en mets plein de basses sur le micro. Et bah, du sport, ça va être à toi. Ciao, see you, rendez-vous la semaine prochaine à partir de midi avec Thomas. See you.